pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il suffit de tendre l'oreille, de lire la presse, de s'attarder au comptoir des cafés pour le constater. Le cheminot bashing est en vogue. Un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro le confirme d'ailleurs. 7 Français sur 10 sont favorables à la suppression du statut de cheminot. Pour 70% des sondés, ça permettrait de réduire la dette de la SNCF et d'assurer, en même temps, une bonne qualité de ses services. Le statut de prétendu privilégié des cheminots est la cible de toutes les rumeurs. On dit qu'il touche tellement de primes qu'il y a même une prime pour absence de prime. Sans parler de la prime charbon, dont on entend tout le temps parler et qui n'existe plus depuis 1970 et la fin des locomotives à charbon. On entend aussi que les cheminots travailleraient un maximum de 25 heures par semaine. Enfin, quand ils travaillent, qu'ils sont soignés gratuitement et que toute leur famille et leur belle-famille voyagent gratos sur toutes les lignes de la SNCF. Sans parler de leur retraite, qui fait l'objet de tous les fantasmes. Et si on continue, on dira même qu'ils arrêtent de travailler avant d'avoir commencé. Avec, au sommet de ces énervements, leur insupportable et inaliénable droit de grève, assorti de leur détermination sans faille à paralyser la France, à emmerder au maximum la vie des Français pour conserver ces fameux privilèges. Même le président de la République, Emmanuel Macron, en visite au salon de l'agriculture, s'est employé à isoler les cheminots en les opposant aux agriculteurs, tout en précisant, en même temps, selon son habitude, qu'il était lui-même petit-fils de cheminot. « Je ne peux pas avoir d'un côté des agriculteurs qui n'ont pas de retraite », a déclaré le président de la République, et de l'autre, avoir un statut cheminot et ne pas le changer. Alors donc que s'est présenté aujourd'hui le projet de loi qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour aller vite sur le ferroviaire. Nous sommes donc allés dans les pieds sur terre à la gare d'Aury-la-Ville dans les Hauts-de-France sur la ligne Amiens-Compiègne et nous nous sommes demandé si au fond les usagers et les cheminots devaient forcément être dressés les uns contre les autres et s'ils n'auraient pas par hasard des intérêts communs. On est tous le cheminot de quelqu'un, c'est un reportage de Rémi Douatte.
Vous attendez votre train ?
Oui, comme tous les matins, à 6h35, le train pour Paris, pour aller travailler.
Si on est donc à Coislaforêt ?
Oui, gare de Aury-la-Ville, Coislaforêt, on dessert les deux villes, c'est la gare qui dessert les deux villes.
Alors, on est dans quel département ?
On est dans l'Oise, donc on appartient aux Hauts-de-France, donc c'est un transport, nous nos trains, pour la plupart, arrivent soit de Compiègne, soit d'Amiens, et puis il y a un nœud qui se forme à Creil, et ensuite les trains arrivent tous par Creil, Chantilly, Aury-la-Ville, qui est la dernière gare du parcours.
Un certain nombre de lignes sont menacés. Oui. Est-ce que vous l'avez vu arriver, ça ?
Alors, c'est pas dit comme ça. C'est dit que non, on ne laissera pas tomber les petites lignes, on ne les fermera pas. Mais si la région n'a pas d'argent pour les faire fonctionner, il va falloir que la région trouve l'argent. Parce que c'est pas tout de dire non, on la garde ouverte, la ligne. Oui, mais on la fait fonctionner comment ? Avec quel argent ? Il y a une réalité, il faut aller au bout du truc et il n'y a pas de réponse pour l'instant. C'est un gros point d'interrogation. Le train est une nécessité, le train assure une égalité. Et on a besoin, et j'ai un peu peur qu'on recrée des inégalités entre les gens encore plus, en ne permettant pas à tout le monde de pouvoir aller travailler de la même façon. Quand vous prenez le train à 5h59, ce que je prends, ou à 6h30, les gens sont habillés de façon très modeste. Hein. C'est là où vous voyez des hommes habillés avec des pantalons d'été, même au cœur de l'hiver. Des gens qui ont le même manteau, parce qu'on les repère quoi, depuis des années. Plus vous avancez en heure, plus les vêtements sont élégants, plus les sacs à main, les accessoires le sont aussi. Arrivé vers les trains de 9h30 ou 10h, ben vous allez avoir les papiers, les mamies qui vont passer des examens, les familles qui vont faire les courses. C'est pas du tout les mêmes gens qui voyagent aux mêmes heures. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Et puis avec les trains des retours, c'est pareil. Vous avez toutes les mamans qui se pressent entre le train de 17h49 et 18h40. Et puis les papas qui vont rentrer après, parce que les mamans sont déjà rentrées, donc les papas peuvent traîner. Vous avez des trains par catégorie sociale, par genre de famille. On les repère vite. Quand on prend la peine de regarder, on voit beaucoup de choses. Il n'y a jamais de pauvres, de gens hyper modestes dans les trains entre 8h30 et 9h, jamais. C'est pas du tout le même besoin, c'est pas le même travail. Donc ça veut dire que c'est pas les mêmes revenus. Donc si on enlève à ces gens-là le train qui leur permet d'aller travailler, ils vont faire comment? Donc c'est important aussi, il faut que tout le monde puisse s'exprimer, puisse dire de quoi on a besoin et qu'on travaille ensemble. C'est certainement pas en se battant les uns contre les autres qu'on arrivera à quoi que ce soit. Et puis, quand on a un rapport où les deux grandes lignes, c'est on ne touchera pas aux petites lignes, mais il faut réformer le statut des cheminots. Réformer le statut des cheminots autant que vous voulez, ça ne me fera pas mieux voyager. Je vois pas le rapport. Ce sont deux choses différentes. Par contre, ça permet aux gens, effectivement, d'avoir un os à ronger physique, visible. J'ai eu quand même beaucoup de témoignages d'agents en gare ou dans les trains qui, depuis ce rapport, se font insulter, traités de paresseux, de privilégiés, de nantis. Alors ça me fait bien rire, de nantis. Et effectivement, moi, si j'avais un gamin, je pense que je préférerais qu'il soit ministre ou sénateur plutôt que cheminot, hein, tant qu'à être nanti. Je ne sais pas si vous pensez que 1 700 euros brut, c'est être nanti. D'accord, bah, c'est nanti. Ou 1 200, voilà, c'est nanti. Bah, pas pour moi, non. Non, non.
Qu'est-ce que vous avez appris, vous, au fur et à mesure de votre carrière de voyageuse sur les cheminots?
Alors, il y a quelque chose. Les cheminots que j'ai rencontrés, en tout cas ceux qui viennent vers les voyageurs parce qu'ils ont envie d'expliquer justement, ce sont des gens, je les compare avec, alors je travaille dans la recherche médicale, je les compare avec les infirmières. Ce sont des gens qui ont vraiment une vocation. Ils aiment ça. Ils aiment la SNCF et c'est pour ça qu'ils souffrent, à mon avis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils souffrent doublement. Ils souffrent de ce qu'on dit d'eux dans les médias et ils souffrent des insultes que le public à qui ils essayent de rendre le service public leur renvoie. Il y a donc une double souffrance. Ah oui, je le vois. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer et ça, ils le regrettent. Ceux qui prennent la parole sont ceux qui souffrent. C'est ceux qui aimeraient que les choses changent. Ce sont ceux qui se disent, avec tout le boulot qu'on fait, toutes les propositions qu'on fait et tout ce qu'on pourrait faire, qui ont la même vision que nous, on a les moyens, on a un réseau qui est bon, on a des trains, on a envie, on a la motivation, mais il y a des étages où ça coince. Le nombre de fois où dans les trains, quand vous parlez à un chef de bord, il vous dit « Oui, je vois que vous êtes debout, je vois que vous êtes tassé, on s'excuse, on est vraiment désolé, on a honte des conditions dans lesquelles vous avez voyagé ce matin. » On entend ça des fois quand on arrive à la gare du Nord. Et moi, je leur dis « Alors, mais après, vous faites quoi ?» Ils me disent « Vous voyez, là, on a un smartphone, on a une appli directe, on remonte l'information à nos supérieurs. » Et qu'est-ce qui redescend? Et là, ils nous disent « Mais jamais rien. » Donc, ils parlent dans le vide. Donc, c'est vraiment leur bonne volonté de continuer à remonter les problèmes, mais il n'y a rien qui redescend. Donc, ce sont des gens comme nous. Ouais.
C'est votre train qui arrive.
Oui, je vais devoir vous laisser.
Les rails qu'on voit ici, là, ils vont les tirer de façon longitudinale, donc avec les pelles, ils vont les tirer d'un bout et ils vont les amener tout au bout là-bas. Là. Donc là, il faut savoir que du rail qu'on traîne comme ça, ça peut être très très dangereux. Donc là, le premier réflexe, c'est de dégager tout le personnel qui est autour des rails pour pouvoir les tirer sans que ça puisse causer l'accident.
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, monsieur?
Alors je suis chef de projet à la SNCF, en charge des projets de régénération voie pour l'infrapôle de Paris-Saint-Lazare.
Mais encore, vous êtes cheminot?
Mais encore, je suis cheminot, oui.
Il y a combien de personnes là sur le chantier?
C'est un chantier qui tourne en 3-8, 24 heures sur 24, et on a à peu près 40 personnes par roulement sur le chantier.
40 cheminots?
Non, on a une proportion d'environ 2/3, 1/3, on a environ 2/3 de partenaires d'entreprises extérieures, avec essentiellement Colas Rail, une entreprise Colas Rail, et un tiers de cheminots, d'agents SNCF qui sont là pour organiser, encadrer et s'assurer de la bonne réalisation de l'ensemble des travaux.
C'est une boîte privée, Colas ?
Colas Rail est une entreprise privée, ouais, tout à fait. C'est pas nouveau, ça, hein. J'ai toujours vu des entreprises avec des, certains engins, venir intervenir sur le réseau ferroviaire pour nous aider à entretenir le réseau.
Vous avez toujours vu autant de sous-traitants sur les chantiers SNCF ?
Non, il y en a bien plus aujourd'hui. Il y a bien plus de sous-traitants aujourd'hui.
Mais vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je m'interroge. Je m'interroge.
Traverser, hein.
Non, je vais mettre juste là. Ouais. Voilà.
Ces 10 dernières années, ça a fortement augmenté. Avant, la maintenance, que ce soit voie, caténaire et ce, était exclusivement fait par les agents SNCF. Et depuis une dizaine d'années, ils ont externalisé une partie de la maintenance, que ce soit à la voie, au caténaire, au service électrique des agents électriques. Et le pire, c'est que la SNCF veut, dans certains cas, il y a un conflit d'intérêts, former des agents d'entreprise par des agents SNCF. C'est-à-dire, actuellement, il y a de nombreux endroits où on prend des gens qui ont des compétences, on leur demande de former les entreprises privées parce qu'ils ne sont pas compétents. Ça, c'est grave. C'est donner, pour nous, c'est donner le travail clé en main à des entreprises parce que ces entreprises, il y a moins de contraintes.
Parce que vous, c'est quoi votre boulot, monsieur ?
Moi, je suis agent caténaire. J'entretiens et je vérifie les normes des installations électriques. Malheureusement, ça a été prouvé dans l'action de travail il y a quelques années à Gare de Lyon. Il y avait une entreprise privée qui travaillait avec un engin. Le mec a été tué, il est passé il a pris une pelle derrière la tête. Il avait travaillé jour et nuit. Donc c'était pas déclaré. Il y avait une partie de son travail qui n'était pas déclarée. Et c'est pour ça qu'il touchait de grosses rémunérations. Il faut savoir que dans le privé, les gens sont plus facilement licenciables. Et nous, on a un statut qui nous protège justement contre ces pressions-là. Avec le statut, on est protégé pour faire un travail de qualité.
Ouais, là, c'est bon.
Moi, je trouve ça inadmissible de voir ce qu'ils veulent faire de l'entreprise SNCF. Il y a certaines lignes sur les réseaux TER, en l'occurrence, de régionales, que ce soit en Hauts-de-France, Picardie, par exemple, ou TER Centre, ou ailleurs dans le Sud-Ouest, ou en Pays de Loire, où il y a des risques avec ce qu'ils veulent faire avec les ordonnances, que par la suite, comme le gouvernement va dire aux régions de les subventionner avec leurs propres moyens, bah, qu'ils ne soient plus entretenus. On va se retrouver, comme on l'a connu dans le passé, avec des services de bus au départ. Puis comme ça coûte trop cher, il y aura de moins en moins de monde. Après, il n'y aura plus rien. Il y a des exemples flagrants qui ont été faits dans différentes régions où la SNCF a fait tout pour supprimer des petites lignes en n'assurant pas des correspondances avec des TGV. Ils ont ici en Bretagne à plusieurs reprises et ailleurs. Et du coup, résultat des courses, comme il n'y avait plus de correspondance, il y avait moins de personnes. Et du coup, ils ont fait des recensements, ils ont mis des bus. Et à la fin, ça finit, des lignes étaient abandonnées. C'est inadmissible. Et dans le Nord, ils veulent le faire, comme on l'entend, entre Amiens et Compiègne, où il y a aussi, entre Amiens et Rendu-Fillier, les petites lignes de la Picardie, où ça peut être sur la région Centre, les Pays de la Loire, en Loire-Atlantique, et j'en passe, et des meilleurs. On n'entretient pas, on laisse mourir les lignes, et puis qu'ici, derrière, qui va devoir faire les frais de ça, c'est les régions, et les régions n'auront pas les moyens, et puis voilà, et on va se retrouver la tête dans l'eau, et on voit les bus, ils sont pas rentables, les bus Macron. Les bus sur les autoroutes, ça pollue, c'est pas rentable. Et on veut détruire les trains, les petites lignes de TER, c'est une honte. 9000 km, le rapport Spinetta, c'est une honte. Voilà.
Excusez-moi, vous partez pour où, là ?
Je pars pour Paris, la gare du Nord. Je travaille à Paris et je dois prendre mon train tout à l'heure.
Alors ici, on est...
On est à la gare de Liancourt-Antigny. Donc c'est une petite gare sur l'axe Amiens-Paris. On n'a pas beaucoup de trains, mais ils nous sont franchement nécessaires. C'est un peu une gare morte, avec beaucoup d'usagers. Donc vous voyez, on a une magnifique passerelle. C'est bien qu'on ait une passerelle. Hein. Par contre, elle est dans un état pitoyable. Elle est rouillée de chez rouillée. Il y a par moments, si vous passez sur la passerelle et qu'il y a un intercité qui roule au même moment, Vous vous demandez si vous n'allez pas passer à travers et tomber sur l'intercité. Au niveau des peintures, voilà, c'est complètement dégradé. Je pense que ça a fait de nombreuses années que ça n'a pas été refait. Au-dessus de la gare, on peut voir qu'il y a des volets qui sont fermés. Je pense qu'il devait y avoir un appartement pour les gens qui travaillaient sur cette gare. Mais je pense qu'il n'y a plus personne maintenant. Les volets sont hors service. Je ne sais même pas si on peut les ouvrir, parce que je pense qu'ils vont tomber. La pendule qui est HS aussi, par exemple. Et ça fait un moment qu'elle est HS. Hein. J'avais déjà remarqué depuis au moins 15 jours. La billetterie hors service.
Donc on ne peut pas prendre de billets?
On peut prendre un billet dans la gare quand elle est ouverte, mais là, la billetterie à l'extérieur de la gare est hors service. C'est sûr que ça ne rapporte pas. Après, ça va être un moyen de nous faire fermer notre gare, par exemple.
Et vous, si la gare de Liancourt donc ferme, qu'est-ce que ça change pour vous?
Alors, il faut que je fasse environ 12 km de plus pour aller à la gare de Creil. Ça va me coûter en parking à la gare de Creil, parce que le parking est payant. Et il y a un petit souci, c'est qu'on délivre presque plus d'abonnements pour le parking, puisqu'il est déjà saturé. Donc je pense que les gouvernements successifs nous ont un petit peu abandonnés sur les TER au profit du TGV. Ils ont construit des lignes TGV avec des sommes faramineuses au détriment des usagers qui prennent le train tous les jours. Parce que le TGV, je pense qu'il n'y a pas autant d'usagers qui utilisent le TGV tous les jours que les petites lignes.
Vous prenez souvent le TGV, vous ?
Jamais. La dernière fois que je l'ai pris, c'était pour partir en vacances au ski, il y a 20 ans. Je ne peux pas partir en vacances par le train. On fait très très attention au budget.
Et pourquoi vous habitez si loin de votre lieu de travail ?
Je travaille dans la fonction publique et on nous presse de partout. Donc pour nous, il est plus possible de se loger dans Paris intramuros, voire même en banlieue, c'est devenu compliqué.
Vous gagnez combien ?
Alors au bout de 23 ans de carrière, je touche 2100 euros par mois. Ça inclut mes primes de nuit, 1,07€ de l'heure, et jours fériés, enfin, comme à la SNCF, pareil. Je suis carrément solidaire d'eux, parce que on est tous dans le même bateau, là. On est tous dans le même bateau, et ce qu'on est en train de leur faire à eux, on va nous le faire à nous, au niveau du service public hospitalier, et ça va être une succession de mesures pour casser le service public et en faire des missions externalisées au niveau du privé. Enfin, moi, j'ai pas choisi d'être infirmière dans la fonction publique pour qu'on me dise « tu as besoin d'être rentable » et voilà. Ça n'a jamais été voulu pour être rentable, un service public. C'est pour une égalité entre les citoyens, pas du tout pour faire du profit à la base.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis agent voie et je m'occupe de l'entretien de la voie depuis une dizaine d'années.
Cheminot donc ?
Oui, cheminot et fier de l'être.
Donc vous avez essentiellement un boulot de sécurisation des voies ?
Exactement, en fait, notre métier principal, c'est que les trains restent sur les voies. Et dernièrement, en fait, il y a eu les intempéries et la neige. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Pendant qu'il neige, on est obligé de venir déneiger avec un chalumeau pour chauffer la neige et qu'elle disparaisse et que ça permette de pouvoir rouler en toute sécurité. Ou par exemple, la semaine dernière, quand c'était une période de grand froid dans toute la France, de travailler sous des ressentis de moins 16 degrés. Regardez mes mains, elles parlent d'elles-mêmes et chaque jour, les cheminots qui pleuvent, qui ventent, même équipés, c'est difficile. Nous, on travaille tous les jours à côté de trains qui roulent à 130 km/h. Et vous êtes à 1,50 m d'un train qui roule à 150 km/h. Et donc, c'est vrai que ces risques, ils sont absolument pas pris en compte par le public. C'est-à-dire que souvent, on nous dit « Ah regardez les cheminots, ils sont en train de regarder les trains passer ». Mais qu'est-ce qu'ils font les cheminots ? Ils peuvent pas rester au milieu de la voie pendant que le train y passe.
Et vous êtes payé combien, monsieur ?
Alors selon les mois, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse variable de prime, mon traitement c'est 1680 euros après presque 10 ans de SNCF. 1680 euros de traitement, c'est-à-dire qu'après il y a des variables selon si vous travaillez de nuit, si vous travaillez de jour, vous avez des quelques primes qui se rajoutent.
Alors au total, parce qu'on parle de dizaines de primes différentes.
À peu près c'est entre 2000 et 2002, net dans ma poche.
Est-ce que vous avez des contraintes qui sont liées à ça?
Bah, cette nuit par exemple je travaille. Les trois prochaines semaines, je serai de nuit. J'ai travaillé dimanche dernier. J'ai été d'astreinte il y a trois semaines. Pour toucher, entre guillemets, un petit copec de plus, souvent, il y a beaucoup de cheminots qui vont travailler le dimanche, donc qui ne vont pas voir leur famille. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la SNCF. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a beaucoup d'avantages. Et au final, peu de gens sont capables de nous dire quels sont les avantages qu'on a. Je ne les vois pas, mes avantages. Mes avantages, honnêtement, c'est d'avoir le cœur de l'entreprise. C'est que j'aime le travail que je fais. C'est le seul avantage que je vois. Et peut-être de ne pas pouvoir, entre guillemets, être viré. Mais c'est le dernier avantage qui nous reste au final. Si on faisait la plupart des cheminots, c'est-à-dire avec leur formation, on faisait exactement le même travail dans le privé, c'est-à-dire que dans les entreprises comme Colas, ETF, on ferait au moins 30 à 40% de salaire en plus.
Et pourquoi vous n'y allez pas, vous ?
La stabilité, et puis parce que je suis attaché à la SNCF.
Tout ça, c'est magnifique, on a un beau train en composition normale, donc on va même certainement pouvoir s'asseoir, ce qui n'est pas le cas tous les matins et tous les soirs. Du coup, voilà, là, c'est un grand train, un beau TER Picardie avec, je pense, 9 ou 10 wagons.
C'est pas le cas habituellement ?
Non, pas du tout. Enfin, ça dépend. En fait, c'est le hasard. C'est un petit peu ce que je reproche aussi à cette ligne de train, c'est que c'est le hasard. Là, on peut avoir un super train, être assis, on arrive à l'heure, tout va bien. Et on peut aussi se retrouver dans un mini-train de 4 wagons où on n'arrive pas à monter dedans. Donc là, ce soir, on a de la chance. On dirait.
Vous faites ce trajet souvent ?
Ah oui, je le fais ce trajet tous les jours, tous les matins et tous les soirs pour aller travailler.
Comment ça se passe ?
Alors, comment ça se passe ? Ça se passe plus ou moins bien. C'est un petit peu la loterie, en fait. Soit ça se passe très bien, soit ça se passe pas bien, en fait. C'est ce que je reproche un peu à cette ligne, c'est l'incertitude totale. Ne pas savoir à quelle heure on arrive le matin, à quelle heure on arrive le soir. Donc c'est pour ça, là, j'arrête, je prends plus le train. Je vais quitter la région pour plus prendre le train. Donc, lorsque je me suis installée en 2012, je travaillais à La Défense. Et j'ai eu l'opportunité de m'installer à côté d'Aury-la-Ville, où en théorie, on est à 18 minutes de train de la gare de Paris-Nord. Au départ, moi, je mettais à peu près une petite heure, donc ce qui était tout à fait... pareil que ce que je mettais quand j'habitais à Paris pour aller travailler, ça changeait pas grand chose. Prendre le train ne me posait aucun problème, à savoir que moi, j'adore le train, c'est quelque chose que je prends enfin, avec plaisir pour voyager, pour rien vous cacher, je suis même anti-voiture. Donc pour moi, les transports en commun, c'est une véritable conviction. J'ai passé mon permis à l'âge de 30 ans, donc vraiment pour moi, prendre le train, c'est la norme, c'est normal. J'étais même plutôt fière, voilà, de pas polluer, de prendre le train. J'aime regarder par la fenêtre, comme là, on est en train de voir les paysages qui défilent. Un peu industriel, puisqu'on est en sortie de Gare du Nord, donc il y a des hangars, il y a des ateliers de réparation de train. Donc là, je vois un RER, on est en train de doubler un RERD, des immeubles, la banlieue parisienne. Et en fait, il y a toujours un petit détail à observer, à regarder. Enfin, je trouve que c'est ça qui est bien dans le train, en fait. En fait, quand on est assis comme ça, on regarde dehors, ça repose, voilà, on est au calme. Après une journée de travail, voilà, c'est plutôt agréable. Ça me plaît. Quand tout fonctionne, le train me plaît beaucoup. Mais quand le train ne fonctionne pas, ça ne me plaît pas du tout. Alors pourquoi ? Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, ce matin, je devais être au travail assez tôt, vers 8h30 au plus tard. Je me suis rendue à la gare d'Aury-la-Ville vers 7h pour prendre mon train. À 7h04, lorsque j'arrive, on me dit que le train a 45 minutes de retard. Et de patienter pour prendre le train de 7h20, donc on patiente tous debout dans notre petite gare à attendre. À 7h20, on nous dit d'attendre encore 25 minutes, donc le train finalement de 7h20, 25 minutes de retard. Donc finalement, à force d'attendre, je suis arrivée en retard au boulot.
alors que j'avais pris 3 trains d'avance. Donc voilà, c'est une des raisons qui fait que, très concrètement, je ne sais pas à quelle heure j'arrive le matin, je ne sais pas à quelle heure j'arrive le soir, et ça peut plus durer. C'est pas la vie que je souhaite. Mais ces dernières années, voilà, ça s'est très fortement dégradé. À savoir que les semaines où il n'y a pas de retard, où tout se passe bien, sont carrément rares. Tout simplement. Je pense tout simplement qu'il y a un manque d'investissement. Bien qu'on ait des nouveaux matériels, on a aussi des trains qui sont très vieux. Des trains où les portes ne s'ouvrent pas, on a des vitres qui tiennent pas. Donc quand il faisait moins 11, il y avait des vitres qui étaient ouvertes. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le reflet d'un manque d'investissement. Hein. Pour avoir des trains qui sont tout à fait convenables, on a beaucoup de trains en panne. Donc ce qui explique également ces trains en demi-composition, en petite composition. Donc pour moi, c'est clairement un manque d'investissement. Certainement plus investi sur les grandes lignes telles que le TGV, les lignes un petit peu vitrines, on va dire, pour la SNCF, et puis au détriment des petites lignes comme nous, des travailleurs du quotidien. Pour moi, c'est un véritable investissement qu'il faut faire, mais pas un changement de statut en fait, des gens qui travaillent dans le train, à savoir que les cheminots qui sont en première ligne, leurs conditions de travail, ce sont nos conditions de transport. Donc aujourd'hui, un conducteur, un chef de bord, ils prennent aussi un train blindé, sauf qu'eux, ils travaillent comme ça toute la journée. Donc ils sont aussi concernés que nous, ils en souffrent autant, si ce n'est plus, puisque ce sont leurs conditions de travail.
De nuit, il y a des fantômes qui me sourient quand nous passons sur les prairies. Dans le train de nuit, il y a des royaumes, et puis du bruit, et puis Paris au bout de la nuit. Les souvenirs si tendres viennent s'y faire entendre. J'entends la voix des flots enchanteurs qui font au fond de mon cœur des sérénades. J'entends le triste appel des bateaux et la chanson des oiseaux sur l'esplanade. Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. J'entends la ville qui me dit bonsoir. Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre. On est tous le cheminot de quelqu'un. Un reportage de Rémi Douat réalisé par Cécile Lafont. Merci à Nora, à Fanny, à Marie-Laure, aux cheminots d'Île-de-France et des Hauts-de-France. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Céline Autin, c'est notre stagiaire.